carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Chers internautes, je vous emmène visiter l'atelier du peintre académicien Gustave Moreau, élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1888. Cette visite, je la fais en compagnie de sa conservatrice, Marie-Cécile Forêt. L'ambition de Moreau était de créer une œuvre où l'âme puisse trouver toutes les aspirations de rêve, de tendresse, d'amour, d'enthousiasme et d'élévation religieuse vers les sphères supérieures, dixit le peintre. La peinture donc pour rêver plutôt que pour penser.
La première pièce que le visiteur voit en rentrant, c'est son cabinet de réception que nous avons ouvert à la visite en 2003 à l'occasion du centenaire du musée. C'est une appellation qui vient de Robert de Montesquieu, qu'il avait visité du vivant de Moreau et qui parle de cette pièce avec notamment les œuvres italiennes que Moreau a pu y rassembler. Puisqu'en fait, chaque pièce de l'appartement, c'est l'appartement qui n'est pas tel que Moreau l'a réellement habité, mais un appartement muséographié pour le laisser ensuite à la visite comme musée à la postérité. Donc dans cette salle, on trouve principalement des œuvres copiées en Italie, par exemple Carpaccio, que Moreau a découvert l'un des tout premiers, ou cet ange de Raphaël dont il était très fier et dont il n'a pas voulu se séparer, et puis une partie de sa bibliothèque, notamment dans cette pièce, les livres d'architecture qui appartenaient à son père, qui était architecte élève de Percier-Fontaine. C'est l'appartement où Gustave Moreau a vécu toute sa vie avec ses parents. Et là encore, chaque pièce est aménagée dans une intention bien précise. Si vous voulez, chaque pièce est un lieu de mémoire. Par exemple, ce petit couloir, c'est un lieu de mémoire aux artistes qui ont été importants pour lui. Donc c'est autant Rembrandt, dont vous avez ici une œuvre, que d'autres artistes qui ont été très importants pour lui, notamment Théodore Chassériau. Donc Théodore Chassériau habitait tout près, il a rue avenue Frochot, et il a offert à Gustave Moreau ce portrait de Rachel, et puis ce portrait de femme, et Moreau a souhaité les exposer ici dans ce couloir, pour le laisser ensuite à la visite, en hommage à celui qui a été son mentor. Il n'a pas été véritablement son professeur, mais il a eu une influence extrêmement considérable sur lui-même. Vous avez ensuite la salle à manger, avec sur ce vaisselier toutes ces céramiques du XIXe siècle, dans le goût de Bernard Palissy. Et puis ici, ce sont plutôt des œuvres que Moreau a accroché, qui sont des œuvres qu'il avait vendues et dont il a souhaité garder le souvenir par la reproduction, la gravure ou la photographie. Vous avez par exemple ici le David qui est aujourd'hui à Los Angeles, vous avez ici Œdipe et le Sphinx qui est au Metropolitan Museum à New York, ou le Jason qui est au musée d'Orsay. Donc ici, c'est un peu un lieu de mémoire à sa propre œuvre, si vous voulez. Ce qui est très intéressant au musée Gustave Moreau, c'est qu'on a un musée qui a été accroché par le peintre lui-même et on n'a jamais perdu la trace de cet accrochage. C'est, je pense, sa qualité essentielle qui maintenant est une chose rarissime dans les musées, puisque les artistes n'y ont souvent pas songé avec autant d'intérêt que Moreau. Voilà.
Ici, l'appartement garde une véritable authenticité.
Authenticité incomparable, oui. Ici, donc, on arrive maintenant dans la chambre. C'est la chambre où Gustave Moreau est décédé au mois d'avril 1898, et qui là est un lieu de mémoire plutôt à sa famille, puisque vous avez le portrait de sa mère ici, le portrait de lui-même par Icard, le portrait de son père ici par Élie Delaunay, et puis vous avez ce magnifique portrait qui est sans doute très recherché de nos visiteurs, qui est le portrait de Moreau par Edgar Degas au moment où ils ont été très amis, puisque tous les deux se sont retrouvés en Italie et Moreau, qui était l'aîné de Degas, était très très important et Degas réclamait sa présence, réclamait son enseignement de l'histoire de l'art. Et vous avez également le portrait de sa sœur Camille, qui était sa sœur qui est décédée malheureusement dans son jeune âge. Donc on passe ensuite peut-être dans le boudoir d'Alexandrine. Donc ça c'est une pièce qui, elle, est à la mémoire d'Alexandrine Dureux, qui était son amie de cœur, on peut dire, avec qui il n'a pas véritablement vécu et il a eu la douleur de la voir disparaître en 1898, donc 8 ans avant sa propre disparition. Et il a donc récupéré le mobilier qui lui appartenait pour le disposer dans cette salle et aussi les œuvres qu'il lui avait offertes, par exemple cette Pasiphaë, Hercule et l'Hydre de Lerne, cette Léda, pour en faire là encore un lieu de mémoire dédié à Alexandrine Dureux, dont on a ici deux portraits photographiques et qu'il a lui-même incessamment dessiné sans relâche. Voilà. De ce lien, on ne sait pas beaucoup de choses parce que toute la correspondance entre eux a été détruite, mais il y a quand même des témoignages très certains avec par exemple des dessins annotés au moment de sa mort à ma très chère, la très chère regrettée Alexandrine D. C'est des tableaux qui ont été en son hommage comme Orphée sur la tombe d'Eurydice ou la Parc et l'Ange de la mort. Voilà.
Est-ce que Gustave Moreau a été marié ?
Non, il n'a jamais été marié. Il a vécu toute sa vie avec ses parents, ce qui était assez habituel au XIXe siècle. Son père est mort le premier, sa mère ensuite en 1884. Ça a été un choc terrible. Et puis ensuite, son amie Alexandrine Dureux. Et étant sans descendance, il a souhaité laisser à la postérité son musée, l'aménager lui-même. Et sa descendance, si vous voulez, ce sont plutôt ses élèves, voilà. Puisqu'il a été professeur à l'École des Beaux-Arts à partir de 1892.
Donc la femme de sa vie, ce serait certainement Alexandrine.
Voilà, absolument, c'est sans doute Alexandrine. Nous arrivons dans ce que nous appelons les grands ateliers, c'est-à-dire au deuxième étage du musée, qui sont le musée proprement dit où Gustave Moreau a lui-même accroché ses œuvres et qui était en fait la maison originelle de l'artiste. Et en 1895, quand il décide de transformer la maison familiale de l'artiste en musée, il va demander à un architecte, Albert Lafont, d'agrandir le deuxième et le troisième étage, d'en faire des salles très très hautes de plafond pour pouvoir exposer ces grands formats. Donc l'intérêt, si vous voulez, de ces grands ateliers au deuxième et troisième étage, c'est là encore, comme dans les appartements, que l'accrochage a été fait par Gustave Moreau lui-même, puisqu'on a même des dessins voilà, qui montrent l'accrochage de ce grand mur avec les prétendants. Et puis on a surtout, ce qui est une chose rarissime et pour lequel il n'y a pas d'équivalent, dans tous ces étages, 4800 dessins qui sont présentés et que l'on peut feuilleter comme un livre et qui sont très très importants puisqu'ils permettent de découvrir la genèse des œuvres.
4800 dessins, c'est énorme.
C'est énorme, mais ce n'est en fait qu'une petite partie de notre collection puisque le musée Gustave Moreau est tout souvent considéré comme un petit musée par la taille, parce que c'est une maison d'artiste, donc on est à la taille, à l'échelle d'une maison, mais c'est une grande collection par la qualité des œuvres, évidemment, et aussi par le nombre, puisque nous conservons 20 000 œuvres dans ce si petit lieu. La principale richesse en nombre, je dis bien, du musée, c'est les dessins, puisque nous conservons 14 000 dessins que Gustave Moreau est dans la tradition de l'École des Beaux-Arts, où chaque œuvre peinte est précédée de très nombreux dessins, et lui-même sera un dessinateur infatigable.
Pouvez-vous nous dire combien de mètres sous plafond il y a dans cette pièce ?
Je pense qu'il doit y avoir à peu près 7 mètres sous plafond.
Et c'est très très haut.
Très grande hauteur, voilà, qui a été déterminée par le format même des peintures. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est toujours dans des coloris. La peinture a été évidemment refaite depuis l'ouverture du musée au public en 1903, mais nous en avons des témoignages. On a conservé la couleur des lambris, on a conservé les murs roses, et ce que je pense que les visiteurs apprécient ici, c'est cet accrochage inchangé et puis le fait qu'on puisse regarder les œuvres de manière recueillie, ce qui est, à mon sens, extrêmement important et qui devient malheureusement de plus en plus rare.
Quelle est la particularité de cette extraordinaire salle lorsqu'on arrive tout en haut de l'escalier ?
Quand on arrive en haut du premier escalier, on voit un second escalier à vis qui est un chef-d'œuvre de l'architecture de fer. Nous sommes ici dans les années 1896, donc on travaille déjà le fer depuis longtemps même. Et donc il y a ce merveilleux escalier à vis qui vous aspire vers le haut et qui va nous conduire au troisième étage où on a exactement le même mode de présentation, des peintures, des dessins, plus une chose qui est un peu notre cabinet des merveilles, un peu à nous, et qui est un magnifique meuble aux aquarelles où Moreau a souhaité rassembler, non pas toutes ses aquarelles, mais un nombre très important d'aquarelles, il y en a plus de 200 dans ce meuble, et qui sont les chefs-d'œuvre des chefs-d'œuvre.
Avant d'aller voir cette salle, donc encore un étage plus haut, donc on imagine la hauteur de la maison.
Oui, qui a été surélevée, parce qu'à l'origine, si vous voulez, le deuxième étage, c'était un étage qui était un étage d'habitation, et pour que la famille Moreau se fasse des revenus, elle le louait parfois. Par exemple, on sait que lorsque Moreau va partir en Italie entre 1857 et 1859, où là il va rencontrer Degas par exemple, cet appartement va être loué au peintre Eugène Fromentin, avec qui Moreau sera très lié jusqu'à ce que Fromentin critique Rembrandt, ce qui était pour Moreau un crise de lèse-majesté qu'il ne va pas lui pardonner. Et puis le troisième étage était l'étage de son atelier, mais dont nous n'avons plus la trace, puisque ce troisième étage est devenu aujourd'hui une salle de musée.
Alors avant d'aller visiter donc cette pièce en haut, donc à l'étage supérieur, pourriez-vous nous dire quelle est l'œuvre phare de cette salle, voire les œuvres, évidemment, elles sont toutes connues, elles sont toutes très belles, mais quand même, il doit bien y avoir une œuvre extraordinaire ici.
Écoutez, il y en a plusieurs. On pourrait peut-être, je ne sais pas, parler des prétendants, qui est une œuvre qui est sans doute la plus grande œuvre de cette salle, qui ne quitte pour des raisons très très simple de conservation et puis aussi de taille qui ne peut pas quitter le musée, c'est impossible à moins de la rouler, de la dérouler, et qui est cette immense peinture sur laquelle Moreau va travailler pendant plus de 50 ans. Donc ça, c'est assez caractéristique de lui. Il va, d'abord, elle va être agrandie. Donc on voit très bien, si vous voulez, la différence de fer entre le début où l'œuvre a été commencée et puis la fin. Et ça, c'est assez caractéristique de beaucoup de peintures, notamment dans cette salle, sur lesquelles Moreau va travailler de manière incessante au fur et à mesure qu'il va réfléchir. Et il va d'ailleurs, à un moment, quand il va parler des aquarelles, il va dire « Ah, mais je ne travaille jamais aussi bien que lorsque je fais vite. » Parce que dans l'aquarelle, et la reprise est impossible, alors qu'avec la peinture, oui, puisqu'on peut rajouter des morceaux de toile, on peut reprendre à l'infini.
Plus personnellement, à qui était-il lié à l'époque, des peintres connus ?
Il était, comme je vous le disais tout à l'heure, il était très ami de Chassériau. C'était plutôt que Chassériau avait une très très grande influence esthétique sur lui, si vous voulez. Sinon, son cercle, ça sera des artistes moins connus, bon, Fromentin étant quand même très connu, mais d'autres moins connus comme Bercher, qui est un peintre paysagiste natif d'Étampes, ou d'autres personnes comme Eugène Lacherrier, Königswatter, Frédéric de Courcy, qui font des émaux. Donc c'est un cercle amical qui souvent a été façonné dès le plus jeune âge.
Passons à l'étage au-dessus.
Bien aimé en dire un petit mot.
Donc au centre de cette pièce, nous retrouvons des sculptures.
Voilà, donc Moreau, et ça c'est très très peu connu, a réalisé dans les années 70 et peut-être même avant, dès les années 60, 15 sculptures en cire qui sont C'est un peu sa dernière conquête, puisque si vous voulez, Moreau, dès l'origine, quand il est artiste, il est peintre, il est dessinateur, il est aquarelliste, et sa dernière conquête, c'est la sculpture. Et il va réaliser 15 sculptures en cire qui vont être des sculptures en rapport avec sa peinture. Si vous voulez, c'est une sculpture intentionnelle, et il le dit lui-même dans une note de 1874, où il souhaite montrer qu'est-ce qu'il sait faire par rapport à la question de l'arabesque et du mouvement. Donc toutes ces sculptures sont très très homogènes, et au début de l'année 2010, je ferai avec le concours d'Anne Pinjot une exposition sur ce sujet, sur Moreau sculpteur, à la fois ses sculptures en cire, à la fois les dessins de sculpture, à la fois sa collection de sculptures, à la fois ses photographies de sculpture, puisque c'est une question qu'il a beaucoup travaillée et qui a finalement imprégné tout son art. Nous arrivons au dernier et troisième étage du musée avec un portrait de Gustave Moreau dans les années 60 qui nous accueille à l'entrée, deux portraits même qui se font face à face. Et puis en face de nous, une grande peinture avec un encadrement néo-renaissance, un peu dans le goût de la Renaissance, de Mantegna par exemple, qu'il admirait beaucoup, et qui représente Jupiter et ses mêlées. Alors ça, c'est un cas un peu particulier parce que c'est une des très rares œuvres du musée qui n'a pas été léguée par Moreau, puisque le musée Gustave Moreau a été le fait de la générosité de Gustave Moreau et de son exécuteur testamentaire Henri Rupp. Et donc tout vient du fond d'atelier, c'est en fait notre musée, c'est le fond d'atelier de l'artiste, excepté quelques œuvres, dont celle-ci qui a été donnée par un généreux donateur qui s'appelait Léopold Goldschmidt et qui a souhaité, au moment de l'ouverture du musée en 1903, présenter son œuvre. Et la commission administrative de l'époque, puisque nous sommes un établissement public dès l'origine du musée, n'a pas souhaité accepter cette présentation temporaire, et donc Goldschmidt a très généreusement donné cette œuvre au musée. Donc c'est une des rares œuvres qui, vous voyez, n'a pas été intégrée à la muséographie originelle, qui a d'abord été présentée au rez-de-chaussée et qui est venue ensuite rejoindre les six messes du troisième étage.
Alors, qu'est-ce qui fait la particularité également de cette pièce ?
Écoutez, je pense qu'au troisième étage, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre ici, très connus du public, notamment la Salomé tatouée, les licornes qui ont été inspirées par la Dame à la licorne que le musée de Cluny venait d'acquérir, la Fée au griffon, qui était la peinture fétiche d'André Breton, l'apparition ici à ma droite, et puis ce meuble aux aquarelles dont je vous parlais tout à l'heure, qui rassemble là aussi dans une muséographie tout à fait exceptionnelle plus de 200 aquarelles. Donc c'est un meuble avec 8 portes que l'on ouvre les unes après les autres et qui renferme des chefs-d'œuvre absolus de l'aquarelle que l'on feuillette là encore comme les dessins, comme des livres. Ce que je trouve qui est propice, si vous voulez, à la délectation dans ce musée, c'est aussi cet accrochage fait par l'artiste, si vous voulez, où les choses ne sont pas forcément faciles à décrypter, puisque l'accrochage n'est pas thématique, l'accrochage n'est pas chronologique, c'est un accrochage esthétique, si vous voulez. Donc, ça oblige ce que Moreau souhaitait de manière tout à fait délibérée aux visiteurs à contempler les œuvres et s'en imprégner et essayer de les aimer, puisque la chose qu'il demandait, c'était qu'on aime ses œuvres, voilà. Et si vous voulez, ça c'est une chose qui me paraît absolument essentielle pour apprécier la peinture de Moreau et apprécier toute peinture, c'est la question de la solitude, du silence et de la délectation de l'œuvre devant l'œuvre en étant bien installée. Nous avons des chaises, des fauteuils pour permettre cette délectation et que chaque visiteur s'imprègne de l'œuvre. Et je pense que Moreau l'a dit de manière très très claire, et je pense que c'est quand même le souhait de chaque visiteur. Les œuvres sont faites dans le silence, dans la solitude, et à mon sens, c'est très important qu'elle puisse être appréciée de la même manière.
Comment fonctionne ce meuble ?
C'est un meuble qui tourne, puisqu'il peut tourner. On a même parlé au début de meubles un peu féeriques et merveilleux, tellement c'est extraordinaire. Et ce sont les aquarelles sont encadrées donc avec des cadres dorés, tout à fait comme si c'était des peintures, et sont montées comme un livre. Donc c'est un peu comme un livre que l'on feuillette, et où nous avons à la fois des aquarelles qui ont été faites, vous voyez, comme ici en Italie, ou alors des compositions plus achevées, comme cette fée au griffon, et puis également des esquisses pour les fables de La Fontaine. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup et qui fait toujours l'unanimité de tous les visiteurs, c'est que Moreau a, dans les années 1880, fait toute une commande de 65 aquarelles pour Anthony Roux, un grand amateur marseillais. Et ces aquarelles ont donné lieu à deux expositions, une en 81 et une en 86. Et Moreau a été absolument salué par tous, par Manet par exemple, qui a dit que pour ses chefs-d'œuvre absolus, il faudrait décorer Moreau. Et voilà, nous avons donc ici la chance, nous avons une aquarelle achevée, et puis nous avons toutes les aquarelles préparatoires aux aquarelles, et qui sont, vous voyez, celle-ci, c'est l'histoire du magicien. Voilà, c'est des chefs-d'œuvre absolus de l'aquarelle. Ici, le loup et l'agneau, bien connu, évidemment.
Comment s'intitule ce tableau-là ?
Ça, c'est un polyptyque en 9 panneaux avec une lunette qui s'appelle « La vie de l'humanité » et qui est une espèce d'interrogation, un peu comme Gauguin a pu le faire dans ce merveilleux tableau de Boston, « Où sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?» où Moreau s'interroge un peu sur le sens de l'existence, et il s'interroge sur le sens de l'existence à travers la mythologie et à travers la religion. Voilà.
On voit qu'il n'y a que très peu de place sur les murs.
Voilà, oui, c'est un peu un espèce d'accrochage à touche-touche, tous les tableaux, tous les cadres se touchent, une espèce d'aurore vacouille, et qui était quand même assez caractéristique du 19e siècle. Mais maintenant, si vous voulez, là, nous ne voyons plus du tout dans les musées les œuvres telles qu'elles étaient accrochées au moment de leur création. Et là, c'est cette chance de garder l'accrochage voulu par l'artiste à touche-touche, les murs absolument sans espace de respiration, c'est le fond rose, et je pense que c'est quand même un des charmes incomparables du musée. C'est évidemment la qualité incomparable des œuvres de Gustave Moreau, mais aussi cet accrochage qui est resté préservé, intact jusque nos jours.
Est-ce que Gustave Moreau, de par ce classement, se serait dit « je veux léguer quelque chose à la postérité et je veux en être le maître » ?
Ah oui, ça je suis absolument sûre que son intention, d'ailleurs très très tôt, dès un dessin qui est ici même, là au troisième étage, qui représente Dalila, il dit, on est en 1862, donc vous voyez, il naît en 1826, il est quand même très jeune, il dit qu'il songe au destin de ses œuvres, vous voyez, donc très très tôt, et ensuite c'est lui-même qui va trier qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut mettre en réserve, puisque bon, il connaissait le principe du musée, que le principe de la réserve, c'est qu'on y laisse les œuvres qui sont de moindre intérêt ou de moins bonne qualité. Donc il a quand même délibérément, lui, fait cet accrochage comme lui le ressentait, si vous voulez. Donc on a un accrochage esthétique et très très sensible, et qui n'est pas un accrochage ni chronologique ni thématique. Et c'est la raison pour laquelle, que lorsque je suis arrivée au musée, nous avons quand même fait, comme au 19e siècle, des cartouches en écrivant le titre du tableau. Parce que pour le visiteur, c'est quand même très très déroutant, sinon, de visiter ce musée sans connaître l'iconographie qui est difficile, parfois obscure, et souvent détournée en plus, puisque Moreau a très souvent repris des iconographies très connues, très célèbres, mais les a réinventées en quelque sorte. Et le visiteur, s'il n'a pas le titre, et se retrouve devant des énigmes. Zola parlera de rébus, par exemple. Il dira pour lui, toutes les œuvres de Gustave Moreau sont des rébus auxquels il aimerait bien avoir une réponse.
Donc cela, le maître n'y avait pas pensé, par contre.
Aux cartouches ? Oui. En fait, le cartouche, non. Nous avons, en fait, de manière très scrupuleuse, repris le cartouche qui était encore au musée d'Orsay. Le cartouche, nous avons recopié le cartouche de l'Orphée du musée d'Orsay. Voilà. Donc lui-même n'avait pas pensé à ça, mais il pensait sans doute pas qu'en 2008, il y aurait 35 000 visiteurs dans son musée, si vous voulez. C'est l'évolution un peu naturelle de le passage de la maison d'artiste à un musée qui est assez visité, beaucoup de visiteurs étrangers, beaucoup de Japonais, mais le souci constant de tous les conservateurs, nous avons été très peu, puisque depuis l'origine, il y a eu en plus de 100 ans, il y a eu que 5 conservateurs, ça a été surtout de préserver l'état originel, de la chance inouïe d'avoir cet état originel fait par Moreau, voulu par Moreau, et le garder et même revenir, s'il y a eu des changements, revenir à l'état originel. Donc ça, c'est très important. On a cet état historique de l'ouverture qui est 1903 et l'état historique doit être notre guide absolu.
Donc, Gustave Moreau a organisé sa postérité. Postérité d'autant plus clairement acquise par l'Académie des Beaux-Arts. Qu'il est né en quelle année ?
Il est né en 1826 et il va mourir en 1898 et il va rentrer à l'Académie en 1888 et le visiteur peut d'ailleurs au premier étage observer, admirer une vitrine avec son épée d'académicien.
C'était donc Marie-Cécile Fauré, conservatrice de l'atelier du peintre académicien Gustave Moreau, qui nous faisait visiter le temple pictural avec l'ambition de Moreau qui était de créer une œuvre où l'âme puisse trouver toutes les aspirations de rêve. Vous pouvez télécharger cette émission sur canalacadémie.com et retrouver Gustave Moreau sur le site de l'Académie des Beaux-Arts.